Ça va, c'est bon, ouais, on la connaît l'histoire. Ouais,
c'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Guedour.
Bonjour.
Morgane Casignan, Paul Mirabel, le fameux Mirabel, Tanguy Passureau, Daniel Morin et notre invité est Eddy De Pretto. Absolument. Eddy De Pretto est notre invité.
Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable.
Il part en tournée, Eddy De Pretto.
Faites de trop.
Et moi, le 26 fait mars des fêtes, dernier,
ça jusqu'au fiasco.
Enfin, c'est là. Non, pardon, c'est l'année dernière. L'année dernière, son album était sorti, album qui s'adressait à tous les baratards sur lequel figurait.
J'étais personne, plein de petites œufs d'automne.
Et la tournée qui s'appelle Freaks, on va en parler avec lui dans quelques instants parce que
il vient.
Il est là. Il sera le 11 mai aux Zénith de Paris, le 26 juin Solidays à Paris, mais également au Printemps Bourges, en concert à Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon, une tournée internationale puisqu'il va partir également en Belgique et au Canada. Wow. Tout ça, et en plus il est président du jury de la poésie.
Grand prix poésie de la RATP.
Exactement, et vous avez encore jusqu'au 19. Vous avez jusqu'au 19 avril pour participer au concours et faire peut-être partie des 10 lauréats. Alors, avant toute chose, le blind test que je vous ai préparé.
Rien n'est jamais acquis.
Oui.
Mon bel amour, mon cher amour.
T'as pas de titre ?
Ma déchirure.
Il n'y a pas d'amour heureux, voilà.
Je te porte dans moi.
Ah,
comme un
je connaissais que la version
blessé.
De Françoise Hardy.
Qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Jean Ferrat.
Oui. Tu m'as fait une petite
AVC. Ouais, t'as fait un petit AVC là.
J'ai fait une Laïc.
Une Leïla AVC.
Leïla AVC.
De l'intérieur.
À n'en savoir que dire. À n'avoir que toi d'horizon.
Qui chante ça?
Ah oui.
Alors, flûte de pan.
Pascal Obispo.
Ah, Paul, tu veux dire un truc? Non, n'hésite pas. Paul.
Vas-y, Paul, vas-y.
C'est pas les Shadows.
Qu'est-ce que ça s'appelle?
Eh, Paul, vas-y.
Allez, lâche. Dis.
Joule.
Joule quoi?
Joule.
Ah, Joule, non.
Je sais.
Sous le pont. Leïla.
Oui.
Marc Lavoine.
Oui. Bah oui.
C'est bien, Paul.
C'est bien. J'ai dit son petit prénom avant.
Ton petit prénom.
Le pont Mirabeau. Avez-vous trouvé le thème ou pas?
C'est les poètes.
Exactement. Aragon pour Il n'y a pas d'amour heureux et aimer à perdre la raison. Apollinaire pour Le pont Mirabeau. Qui chante ça?
Daniel Gainsbourg.
Très bien.
Baudelaire, le serpent.
Exactement.
Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge.
C'est une blague que vous comprendrez dans 15 jours.
On est visionnaire.
Attention, qui chante ça? Pour l'instant, 3 points pour Daniela, pour Leïla.
Si vous n'avez rien.
Oui,
Hardy.
Très bien. Tu ne dis même plus François Hardy, tu. Hardy, juste Hardy.
Pourquoi venir auprès de moi?
Si vous n'avez rien à me dire, c'est un poème de Victor Hugo.
Ah,
pourquoi ça calme, non?
Faire ce
il était déjà calme.
Il était très calme, toujours là. Oui.
Ouais. Pas bouger une oreille.
Qui chante ça? C'est du Rimbaud.
C'est un trou de verdure.
Daniel,
Jean-Louis, très bien.
Soldat jeune, bouche ouverte, tête nue.
Le dormeur
et la
val.
Tête baignante.
Il était pas en forme non plus.
Dans le frais cresson bleu.
Aubert non plus. Hein.
Si, bah en même temps, il a des trous rouges. Il a des trous rouges, qu'est-ce que tu veux faire?
Alors,
attention.
C'est super banco ou pas?
C'est super banco. Voilà. Un point pour Leïla, 5 pour Daniel. Tout se joue maintenant. Qui chante?
Elvis?
Non.
Acapulco.
Tout est affaire.
Oui.
Ferré.
Changer de lit.
Mais pourquoi tu lui envoies?
Parce qu'après Ferrat, Brassens, c'est Ferré, quoi.
Et qui est le poète?
Apparemment.
Oui.
Quel hold-up.
Est-ce ainsi que les hommes vivent à Aragon? Bien joué, victoire de Daniel. Et merci d'accueillir Eddy de Préto.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui.
À la fois pour parler musique et poésie, bienvenue Eddy à ce micro.
Bonjour, merci, je suis ravi d'être là.
Ravi de vous accueillir. On a entendu des chansons, enfin des poèmes d'Aragon, d'Apollinaire, de Victor Hugo, de Rimbaud, adaptés en musique. C'est un exercice qui est facile, ça, de chanter des textes écrits par d'autres, et surtout des textes qui ont marqué la littérature française.
Quand j'ai commencé, j'avais des textes d'autres amis à moi. Alors, c'est pas Rimbaud,
mais Verlaine. Voilà, c'est ça. Non, c'est bien, c'est des textes écrit pour vous.
Voilà, exactement. Voilà. Et je commençais à chanter les mots des autres. Et donc, c'était un exercice plus facile pour moi, en tout cas, parce qu'il n'y a pas toute la phase d'écriture personnelle et toute la recherche. Mais, donc, du coup, c'était le début.
Est-ce que c'est plus facile parce qu'il n'y a pas tout le travail en amont et les atermoiements, peut-être, de se dire est-ce qu'on a la bonne
rime, bon
punch, la punchline et compagnie, ou est-ce que c'est plus facile parce qu'on se détache finalement de l'histoire qu'il
a
racontée?
On se détache un peu et on n'est que sur la mélodie et on se dit qu'on peut raconter ce qu'on veut avec ce texte-là qui n'est pas de nous, et cette mélodie, on peut en faire ce qu'on veut et aller où on veut, et sans attachement particulier, enfin avec le fait de juste kiffer certains mots, mais avec beaucoup moins de lourdeur d'écriture. Quoi.
Et à quel moment on se dit que les autres n'ont pas forcément meilleur goût que soi dans l'écriture? Parce que c'est aussi ça, je trouve qu'au départ, chanter les mots des autres, c'est aussi se dire que bon, ben voilà, le goût, voilà, c'est...
Bah,
c'est...
Après, je pense que c'est que de l'ego, c'est en mode, je veux écrire mes textes.
Voilà. Ouais, mais il y a aussi, c'est pas une question de goût, finalement, c'est une question de ressenti. Je pense que
c'est du ressenti.
Et surtout qu'on peut pas savoir avant ce qui va plus plaire au public.
Non, mais tu peux pas. De ce qu'on écrit.
S'il y avait une recette magique et si on savait que forcément un texte de un tel, ça serait un tube.
La folie. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Il y en a qui ont fait leur preuve, quand même.
Ouais.
Avec le recul, oui. Et même si on prend des paroliers comme Rodagil, Boris Berman, pour prendre les plus connus, ou Goldman, oui, mais enfin, tous les textes de Goldman n'ont pas été des tubes. Tous ceux de Bergman et de Rodagil non plus, mais c'est vrai que certains ont marqué les esprits et touché à un texte, comment dirais-je, qui est au panthéon de la poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait peur ou pas de s'amuser
d'ouvrir le Lagarde et Michard et de se dire alors, voilà,
chanter la cigale et la fourmi.
Ouais. Il y a le sonnet du trou du cul Rimbaud et Verlaine qui m'a beaucoup plu et m'a beaucoup inspiré, et j'avais essayé de le chanter mais ça avait été minable, donc j'y suis pas retourné.
À quel moment on se dit c'est bon ou c'est minable? À quel moment on se dit d'autres peuvent écouter ou je le garde pour moi dans ma chambre?
Là, c'est l'émotion interne, la sensibilité. C'est est-ce que tu te sens prêt à sortir ça parce que tu en es fier, ou est-ce que c'est quelque chose que tu préfères honteusement garder pour toi et de ton côté, quoi. C'est vraiment du feeling.
Ouais, c'est ça. En tout cas, vous avez eu le bon feeling en composant, en chantant et j'imagine en chantant sur scène.
Quand j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut.
Qui est un peu votre je me voyais déjà, pour reprendre le gimmick que vous venez d'écrire. Bourges, Bruxelles, Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon, Rouen, Toulouse, Nantes, Paris, Montréal et le Québec, et puis les festivals cet été. Bateau Mouche fait forcément partie des chansons que vous allez interpréter.
Bah, bien sûr.
Incontournable.
Ouais. Eh bien non.
Non mais je veux dire, elle incarne cet album et votre histoire.
Bien sûr, elle incarne ce deuxième album parce que c'est une vraie histoire. Avant de faire ce premier album, j'étais sur les bateaux et je chantais quand les gens étaient en train de manger des salades ou du saumon.
Il y avait
des petits fours aussi, mais il me calculait pas du tout.
Faux.
Bah non, c'est vrai.
Bah non seulement il vous calculait, mais il vous draguait.
Non mais je travaillais trois fois par semaine, donc oui, il y a eu des soirs heureusement où on m'a vu une demi-seconde et on m'a lancé un billet où on m'a félicité.
C'est ce que vous racontez aussi, c'est-à-dire
je drague pas les hommes, qu'on me dise voilà. Oui voilà. Non mais ça, c'était la directrice artistique qui nous expliquait qu'il faut faire attention au masculin parce que il pourrait mal le prendre qu'un garçon drague un autre garçon.
D'accord.
Bref.
Tristesse.
Mais bon, ça c'est qu'une parenthèse.
Voilà, bon, c'est
une parenthèse. En tout cas, parfois voilà, les gens étaient là surtout pour manger ou passer un bon moment. Et du coup, cette chanson, pour moi, était autobiographique et voulait raconter cette réalité-là avant d'arriver.
Elles le sont toutes autobiographiques, les chansons.
Oui.
Tu seras viril, mon kid.
C'est
tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable.
Est-ce que lorsqu'on raconte des choses très personnelles, autobiographiques, notamment avec son propre père, est-ce qu'on grossit le trait pour en faire une caricature et dire c'est pas vraiment lui, j'ai voulu m'exprimer au nom de tous les garçons qui aiment les garçons et qui peuvent entendre un papa parler comme ça, ou à l'inverse, est-ce qu'on affine le trait pour protéger son papa?
Ça, c'est ce que tu expliques aux parents ensuite, en leur disant, mais non, c'était
c'est pas toi.
Grossir le trait, ce n'est pas toi. Mais en vrai de vrai, non, c'est un peu romancé, c'est un peu raconté, exagéré. Forcément, les traits sont un peu grossis, mais ça vient de vrais ressentis bien profonds.
Ce qui marche le mieux, c'est quand une histoire est vraie, mais qu'elle peut toucher beaucoup d'autres personnes.
C'est bingo.
Et pas, c'est ça.
Ouais,
c'est bingo.
Que ça trouve un
en parler cash, c'est bingo, les gars. Hein, c'est bingo.
Non, mais c'est vraiment cool quand ton histoire touche le énormément de gens. C'est que oui, t'as réussi à ne serait-ce, enfin déjà à parler à toi, à déverrouiller des choses chez toi et puis déverrouiller des choses chez des millions de gens. Ça, c'est génial.
Garder la sincérité et en même temps pouvoir toucher les
exactement.
Autres. Freaks.
À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les à tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart.
Ce qui est génial, c'est que dans les paroles de cette chanson, à tous les bizarres, à tous les monstres, à tous les bâtards, parce que c'est vrai que s'il y a bien un mot en anglais qui ne peut pas être traduit, c'est freaks. Il n'y a pas vraiment de traduction. Et ça dépend, parce que l'anglais a ça de particulier, que ça dépend du ton, de l'intention que l'on donne à cette phrase. Ça peut être extrêmement sympathique. Ça peut être le freak, c'est chic de Nile Rodgers et Bernard Edwards dans les années 70. Comme devenir une véritable insulte.
Là, c'est vrai qu'en anglais, c'est monstre, mais différent. C'est plus la différence.
Oui, mais c'est pas vraiment bizarre. C'est pas vraiment monstre.
Hein, différent, souvent.
Ouais,
c'est des frictions quand même. Ouais, ça dépend le regard qu'on pose.
Différent.
Mais ça a été un sujet pour moi et pour les équipes avec qui je travaille de comment on raconte cette histoire. Freaks, est-ce que le mot en France est audible? Est-ce qu'il est compréhensible?
Bah maintenant, ça devient une revendication.
Ouais, bien sûr.
Et d'assumer une différence.
Bien sûr, et tant mieux. Et c'est le porte-drapeau de ça, de on est différent et c'est ok, et c'est tant mieux, on réinverse l'insulte. Et donc, mais ça a été comment en France, ouais, comment l'amener, comment l'expliquer, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une définition à Frix, et donc la chanson le fait bien.
Le 21 avril au Printemps de Bourges, le 27 avril à Lille, le 28 avril à Rennes, le 2 mai à Bordeaux, le 3 mai à Lyon, le 4 mai au Petit Quevilly, le 9 mai à Toulouse, le 10 mai à Nantes, puis le 11 mai au Zénith de Paris, le 11 juin à Dijon, c'est-à-dire que vous allez mettre un mois à vous reposer du Zénith, hein, je précise. Le 11 juin à Dijon,
je fais d'autres choses entre temps.
J'ai ma vie. Le 24 juin à Montauban, le 26 au Sunny Days, toujours en juin, le 28 juillet à Lourdes, on va continuer de parler avec Eddie De Pretto de son album, de sa tournée, mais également de ce jury, oui, du Grand Prix de la poésie.
De ce qu'il va faire pendant un mois après le Zénith.
RATP, et comment participer à ce concours. Mais d'abord, voici Morgane Cadignan. Et elle ne vous aime pas, Morgane.
Oh, bien, vas-y.
Eddie De Pretto, je vous aime pas, mais non, je mens. Ah là là, on s'en lasse pas. Hein. Si, bon.
Ouais.
Non, mais de toute façon, cette chronique, elle va pas être ouf du tout parce que j'ai commencé à l'écrire dans un train. Puis hier, votre biographie, ça m'a donné envie de réécouter toutes vos musiques. Ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à écrire en écoutant des chansons, ça me déconcentre. Du coup, faut que je prenne l'appli et que je mette pause sur mon épaule, t'es pun, et t'es... Bon, voilà, j'arrive pas à quoi. Voilà.
Tiens, attends, bouge pas, il est là.
Voilà, Paris-Genève, j'ai eu que ça. Voilà, du coup, au lieu d'arrêter la musique, j'ai arrêté d'écrire, j'ai regardé par la fenêtre du train et j'ai eu une idée, j'ai été inspirée, je me suis dit je vais trouver un beat, je vais écrire des paroles et je vais faire une chronique à Eddie De Pretto à la manière d'Eddie De Pretto.
Ouais.
Je plaisante évidemment. Mais alors, vos visages dans vos yeux qui se préparent à être mal à l'aise, mais encourageant pendant 3 minutes.
J'avais confiance, moi.
Jérémia de Crédville.
Ah non, pour moi, c'est Noël, quoi. Il y avait dans vos yeux l'amour un peu honteux des parents d'enfants stupides. C'est hyper beau. Franchement, ce petit air crispé mais encourageant, c'est donc ça que voient les mecs avec qui je couche. Allez, vas-y, Bertrand, maintenant qu'on est là. Je vais pas chanter. Déjà, par respect pour notre invité, puis par respect pour moi-même, puis par respect pour Bertrand. La première fois que je vous ai vu à la télé, j'ai ressenti, comme tout le monde, Eddie De Pretto, qu'il y avait vraiment un truc en plus. Et ce truc, c'était un bob, putain. Parce que Eddie De Pretto, c'est un style aussi. Et je me moque, mais 5 ans après, je coupe les visières de mes casquettes pour vous ressembler. Et la première fois que je vous ai vu, je me suis surtout dit qu'il y avait enfin quelqu'un qui avait eu le même type de vie que moi et qu'on faisait un truc un petit peu joli. Il y avait enfin un chanteur qui racontait nos nuits de trop, nos fêtes de potes, qui, on sait plus trop à quel moment de la nuit deviennent la fête de la mélancolie, la grande teuf du spleen qui se fume en masse sur des balcons haussmanniens et qui se digère en scrollant des applis de rencontre le dimanche soir. Mmh. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus indigeste, je vous le demande. La société, le troisième Big Mac ou cet inconnu sur Tinder qui vous envoie « Coucou la miss !» Crème en enfer, Bertrand. Et je suis pas la seule à vous trouver poétique, Eddie De Pretto, puisque vous présidez le jury du Grand Prix de la poésie RATP. Vous savez, ce sont les petits bouts de poèmes dans le métro avec une rime et en dessous le nom et l'âge et l'origine, enfin là où l'auteur habite. Ces petites pastilles placardées entre trois pubs Acadomia. Acadomia, ouais. Putain, j'en peux plus. On le sait que Julie a besoin d'un accompagnement spécialisé. Putain, franchement, si ton gosse redouble encore, c'est qu'il faut prendre un peu plus la ligne 13. Faites des efforts, quoi. Alors, Eddie, je vous fais confiance parce que franchement, parfois, il y a des poèmes un peu concept, genre dans le métro, une brindille, la nuit, prends ma main, il va neiger du pain. Moi, je lis ça en rentrant un matin d'une fête de trop. Je me mets à parler, tu me vois sur la ligne 12 à parler à l'affiche en disant qu'est-ce que tu cherches à me dire, Paul, 14 ans de Montauban. En fait, les amis, il n'y a pas de gens fous dans le métro parisien. Il n'y a que des gens qui essayent de comprendre la poésie amateur. Dans 20 ans, il y aura une grande dame avec des chats morts dans son manteau qui hurlera rue Ménilmontant. Ça sera Leïla qui n'a pas compris un chapitre d'Apollinaire. Soyez indulgents. Je vous avais dit que cette chronique, elle n'allait pas être folle parce que moi, je ne sais pas faire de poésie. Ah, si, mais parfois, dans le train, je suis douée pour écouter ceux qui la font en regardant la vie qui sans répit défile de fil. Bon, non, j'arrive pas. Bonne émission.
Yes, merci.
Et Morgane qui sera le 6 mai à Nice.
Je veux pas presser mon monde, regarde, je vais prendre mon temps. Car quand on fait comme tout le monde, on devient bête et méchant. Moi je voudrais jamais paraître bête, faire des trucs pour combler le blanc. J'espère dire des choses qui restent et accepter de perdre du temps.
Il faut être artiste, c'est justement ne pas faire comme tout le monde. C'est jouer le décalage.
Ouais, toujours. Moi, c'est ma guideline de H24, c'est comment raconter autre chose qui a pas été déjà raconté 1000 fois. Alors oui, il y a des histoires d'amour où il y a des choses, mais comment avoir poser un certain regard qui est différent d'un autre regard. Sinon, on se ferait chier si on avait tous le même regard.
Et être artiste, c'est créer, c'est prendre des risques, c'est s'exposer, c'est laisser la place à toutes ces fragilités, toutes ces fissures, ces fêlures.
Bah, c'est tenter, ouais, d'accepter d'être à nu quotidiennement. Moi, j'ai toujours aimé le fait que j'ai jamais trop ressenti la pudeur, par exemple.
Même ado, ouais.
Enfin, ça dépend des contextes, mais en tout cas, dans mon travail, dans mes chansons, on me disait souvent. Je me rappelle de quelqu'un qui était venu dans une salle au tout début et qui me disait. Parfois, il y a certaines paroles qui, tellement elles sont fortes, elles sont directes, c'est assez deep, ça me gêne. Il y a des moments, des fois, tellement vous allez loin dans vos récits, il y a des choses, c'est très, très pudique, très impudique. Et je lui disais, mais je le ressens pas, ça. J'ai pas cette notion-là de potentiellement devoir gêner ou pas gêner quelqu'un, parce que ce que je raconte, c'est ma vie. Donc, elle est véritable.
Il y a eu deux étapes dans votre, avec vos albums. Sur le premier album, vous n'étiez pas aussi direct dans les textes, même dans la manière d'en parler ou de le raconter.
Ah oui.
Vous évoquiez plus des métaphores en disant non, mais j'exprime ça aussi pour d'autres. Vous cachiez un tout petit peu derrière le rôle d'artiste et de chanteur. Sur le deuxième album, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus assumé, beaucoup plus direct en disant allez, on va au bout de la sincérité.
Bien sûr, et parce
en racontant sa chambre d'ado, le retour dans le Val-de-Marne, qui est très présent, en y mettant la voix du répondeur, la voix de votre tante sur le répondeur.
Rostati, ouais,
exactement.
Bien sûr. Oui, c'était une volonté aussi parce que j'étais aussi mieux dans mes baskets avec grâce à ce premier album et que j'avais envie d'assumer aussi qui j'étais totalement, que j'avais plus envie de me cacher sous d'autres choses choses que j'ai beaucoup usé sur le premier album et que j'ai adoré ça. Mais c'est vrai que j'avais envie d'assumer beaucoup plus la personne que j'étais avec toutes mes spécificités.
Être artiste, c'est se frotter aussi au jugement, à la critique, aux réactions, au succès ou aux doutes ou aux échecs. Comment on se prépare à ça? Est-ce que l'entourage est très important? Est-ce que vous avez autour de vous, puisqu'on sait que vous faites paroles, musique, production, et on imagine maintenant avec la technologie des ordinateurs et des home studios la possibilité de tout faire tout seul sans personne.
Je ne fais pas tout seul.
Non, mais est-ce que vous avez besoin d'un troisième œil, comme on dit, d'un regard extérieur?
Bien sûr, des équipes avec qui je travaille, même des producteurs, c'est hyper important.
Même des producteurs?
Non, mais
c'est pour te dire.
Non, mais en tout cas, il y a énormément de gens qui travaillent sur le projet avec moi, bien sûr, et c'est important.
Ouais, mais qui a l'oreille?
Qui a l'oreille, des gens à qui j'accorde la confiance et avec qui j'ai le plaisir de travailler, avec qui il n'y a pas de barrière quelconque pour créer, pour, vous savez, cette bulle laboratoire de créer, de tester des choses. Il faut avoir énormément de confiance en la personne avec qui on partage la pièce, parce que on prend tellement de risques et on peut tellement être jugé facilement sur un écart ou sur une mauvaise note ou un mauvais mot ou un truc ridicule.
Ou une mauvaise prestation aussi.
Ou une mauvaise prestation, un tas de choses.
Parce que maintenant tout reste gravé sur les téléphones et sur les réseaux sociaux, donc il suffit qu'il y ait un dérapage un soir, même entre deux chansons, voilà. Un maudit bizarrement, et puis ça prend une proportion.
Ça peut prendre.
C'est ça. Ouais. Ah, c'est ouf. Ouais.
Donc des gens qui j'ai confiance sont bien autour de moi.
Ouais, être artiste, c'est aussi entretenir un rapport particulier et assumer à l'amour qu'on vous porte, à l'amour qu'on a envie de susciter chez son public. Vous, comment vous grandissez avec ça?
Je sais pas trop ça.
C'est gênant.
C'est gênant.
Ah, c'est
je sais pas comment gérer l'amour du public ou l'amour que j'essaie de donner.
L'envie d'en avoir en retour aussi.
Bien sûr. Ouais. J'ai pas fait ça pour rester dans ma chambre.
C'est ça.
Bien sûr, évidemment.
Ok, pas la peine d'être agressif. Ouais.
Non, il est pas. Non, mais peut-être que c'est un point c'est de gêne.
Et dis de Boito agressif. De... Attention, il y a un intrus dans cette phrase.
Non, mais j'essaie de me dire que c'est par le texte, la chanson, que de gérer ça. Et après, sur les réseaux aujourd'hui, c'est aussi très facile d'être en lien. Et je reste assez, j'ai l'impression, en lien. Et je crée beaucoup de discussions via les réseaux.
Mais une fois qu'on a eu cet amour-là, qu'on
on veut plus la perdre. On veut plus qu'elle parte. Bien sûr. Ouais. En fait, ça, je sais pas si ça comble quelque chose, mais en tout cas, ça vient donner beaucoup d'espace positif à la vie, et c'est ce qui m'a grave aidé à être beaucoup plus heureux dans ma vie, ce premier album et ce deuxième et la tournée quotidienne aujourd'hui. Me fait sourire dans ma vie de tous les jours.
Donc. Alors lorsqu'on fait un concert, ce sont ceux qui vous aiment qui viennent, donc on sait qu'il y a cet amour qui est le point le climax de la soirée. Dans ces cas-là, on ne veut pas décevoir ceux qui apportent cet amour. Et donc j'imagine qu'il y a des incontournables, comme on l'a dit tout à l'heure, les bateaux mouches, les kids, la fête de trop. Il y a des chansons qu'il faut absolument faire. À l'inverse, est-ce qu'il y a des titres que vous allez interpréter qui vous pensez que peut-être le public est passé à côté, vous voulez donner une deuxième chance à une chanson en disant je vais la faire en live, ou alors a cappella, ou dans une autre version, parce que finalement elle n'a pas été aussi appréciée que ça, et je voudrais lui donner une deuxième vie.
Oui, j'ai un ressenti comme ça sur La Fronde, une chanson qui est sur le live, et j'ai l'impression que certaines personnes n'ont peut-être pas compris la chanson, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti des réseaux sociaux. Et moi je l'aime beaucoup, donc du coup je la fais en live, quoi.
Dis tout le monde qu'on a trop compté nos morts. Dites-leur que nous n'avons maintenant plus peur. Dis tout le monde qu'on arrêtera jamais de rêver. Dites-leur qu'on est prêt à tout retourner.
Est-ce que sur scène on a des featuring généralement, on a des reprises aussi? Est-ce que vous
y a pas de reprises.
Cédez à cette tentation, pas de reprises, alors que Eddie de Préto, quand il fait des reprises.
Que reste-t-il de nos amours?
Bah c'est pas de vous ça.
Si. Que reste-t-il
c'est sa version.
De ces beaux jours
que vous nous aviez offert dans Taratata.
Une photo, vieille photo de ma jeunesse.
Et j'ai adoré ce moment. Vous n'avez pas le droit de priver votre public de ça.
Bah, c'est à la télé, en radio, en promo que je...
En fait, vous l'avez faite cette reprise parce que je...
C'est pour toi, Nagui.
Je vous oublie.
Mais c'était pour toi, Nagui, bien ouais, sûr.
Je prends un cadeau.
Ben, bien sûr. Non, mais j'adore me prêter au jeu des émissions, des covers, ouais. télé, et,
des
dans
duos,
les, dans les reprises, aussi, dans les duos aussi. J'adore ça parce que c'est un exercice qui me plaît et c'est des belles rencontres et même j'adore prêter ma voix à ça.
C'est même comme ça qu'on s'est connus. C'est Julien Doré qui Exactement. Vous a invité à faire un duo et Exactement. C'est comme ça que moi je vous ai découvert.
Exactement. Et ensuite, en live, je crois pas que, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas l'espace des reprises, c'est l'espace de ce que propose l'artiste. Enfin, c'est ma vision du live. Et du coup, j'ai envie de proposer moi ce que c'est pour moi un concert pendant 1h45 et de proposer mes chansons et mon univers, quoi.
En tournée, c'est Eddie De Pretto.
Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es, car j'ai rien fait comme tu m'as dit. Mais tu vois, je souris aussi.
J'espère que sur scène, vous ferez ma chouchou, ma préférée.
On n'invadera pas la Rostati. On l'accueille pas la Rostati. Ah, elle a l'odeur de l'interdit. A mis des fleurs dans tout Paris. Ah,
à Montmartre,
elle me parle toujours de Pierre.
Bien sûr, elle vivait à Montmartre, ouais. Ouais.
Rostati, l'une des chansons de l'album d'Eddie De Pretto est en tournée. Et puis, tu as présenté, Leïla, le Grand Prix de la poésie RATP.
Ouais, et c'est hyper chouette, c'est hyper émouvant, selon les catégories, de voir les productions, le jury. Et vous allez nous expliquer votre rôle.
C'est des catégories d'âge, c'est enfant, ouais. adulte et... enfant, jeune et adulte, hein,
ouais,
les trois
catégories. Ouais, c'est à moins de 12 ans, les moins de 18 ans catégorie jeune et les plus de 18 ans ensuite. Je crois que c'est à peu près ça, les trois catégories.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et quel est votre rôle, alors, ouais. vous, Eddie?
Bah, le rôle, je suis président, yes. donc ça rigole plus.
Ça y est, vous êtes grand maintenant.
Ouais.
Vous êtes vieux.
Donc, exactement. Du coup, je vais recevoir une présélection de poèmes et je vais faire ça j'aime moins. Et puis j'aurai la chance de pouvoir sélectionner quelques-uns qui apparaîtront dans les métros parisiens.
Sujet libre, hein, faut dire. Les sujets sont pas imposés, la forme non plus, la taille non plus.
Bien sûr. Enfin, faut pas que ça
soit trop long.
C'est entre 4 et 14 lignes. Voilà. La longueur du... Après, on te dit pas la largeur de la ligne non plus.
Ouais.
C'est ça, c'est la ligne de métro.
C'est ça.
Voilà, la vanne a été faite. Pierre Audigier, responsable de la com et à la RATP, sera avec nous tout à l'heure pour en parler. Il faut dire aussi que les thèmes abordés, poésie, que ce soit engagée, lyrique, drôle, absurde, vers ou prose, tout ça est totalement laissé à la libre imagination.
Il y a un petit veto sur le cul ou les choses comme ça pour le métro, je crois.
D'accord. Voilà. D'accord.
Sauf si c'est fait de façon déguisée.
Sauf si c'est
imagé,
voilà,
tu veux dire.
Exactement. Exactement.
Il y a déjà plus de 6500 poèmes qui ont été à date du 8 avril dernier, déjà plus de 6500 poèmes qui ont été délivrés à la RATP. Les 100 finalistes verront leurs textes publiés en plus dans un recueil édité en partenariat avec Gallimard. Voici Paul Mirabel,
Bonjour Nagui, bonjour Leïla, bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui.
Alors j'ai fait mon devoir de citoyen, moi je suis allé voter ce dimanche. Alors je sais Nagui que vous êtes persuadé que j'ai 15 ans et que je suis le stagiaire de 3e, mais sachez qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, je possède une carte électorale. C'est la même depuis plusieurs années en plus, c'est celle avec laquelle j'ai voté De Gaulle en 58. Je me rappelle, on s'était croisé au bureau de vote avec Daniel, il m'avait dit je suis pas complètement d'accord avec toutes ces idées, mais c'est vrai qu'il a quand même fait de grandes choses pour les aéroports. Je me suis rendu compte en y allant en plus que je suis allé voter pas par extrême conviction politique, mais surtout parce que c'est une activité que tu peux faire que tous les 5 ans. C'est comme les Jeux Olympiques, je suis pas particulièrement féru de tir à l'arc, mais comme ça tourne tous les 4 ans, je regarde. Pour être totalement transparent, en plus, moi j'ai voté sans exactement connaître le programme de tous les candidats. Honnêtement, jusqu'à jeudi dernier, je pensais que Philippe Poutou, c'est un acteur dans la grande vadrouille. On t'aide à faire ton choix, en plus, quand tu sais pas pour qui voter. Par contre, vous avez certainement reçu aussi cette petite enveloppe qui contient les programmes de tous les candidats, sur laquelle il y a écrit « Urgence élection
».
Alors au début, moi j'avais mal lu, j'ai cru qu'il y avait écrit « Urgence érection ». Je me suis dit « Oula, admettons, mais il y a peut-être d'autres façons un peu plus subtiles de me l'annoncer ».
C'est violent, hein.
Oui. Et dans cette enveloppe, donc, il y a les programmes de tous les candidats sur lesquels il y a souvent écrit 5 raisons de voter pour moi. Sauf que quand tu vois certains candidats, tu te dis, mais comment il a fait pour en trouver 5? Puisque quand ton affiche est plus belle que ton programme, c'est qu'il y a un souci quelque part. Oh. J'ai observé d'ailleurs qu'en France, que les gens aiment bien savoir pour qui a voté pour qui. Alors moi, j'ai aucun problème avec ça. Je vais vous le dire personnellement pour qui j'ai voté. Surtout qu'on est entre nous aujourd'hui. Je vous fais confiance. Je sais que tout ce qui se dit dans cette pièce reste dans cette pièce.
C'est clair.
Alors, sans la moindre hésitation, j'ai voté Kylian Mbappé. Je pense que c'est actuellement la meilleure solution pour la France. C'est très tabou de montrer pour qui tu vas voter chez nous. Par exemple, dans les bureaux de vote, tu sais, on t'aligne les bulletins de tous les candidats et on te recommande d'en prendre plusieurs pour que les gens autour de toi ne devinent pas pour qui tu vas voter. Alors, je crois que tout le monde n'a pas bien compris la technique, par contre, puisque juste devant moi au bureau de vote, il y a quelqu'un qui a pris 4 fois le même bulletin, soit l'intégralité d'ailleurs des suffrages obtenus par Jean Lassalle. Après, je critique. Je me moque un peu, mais j'ai également fait une chose très étrange en votant. Peut-être que vous avez fait ça aussi. Quand j'ai vu quel papier est resté dans la poubelle de l'isoloir, j'ai commencé à faire mon propre petit sondage. J'ai vu 2 papiers Yannick Jadot par terre. Je me suis dit, tiens, cette année, ça sent pas bon pour Yannick. Il y a juste une chose qui m'a...
Yannick, ouais.
Oui, j'appelle Yannick, bien sûr. Il y a juste une chose qui m'a un peu contrarié pendant le vote, c'est que quand tu présentes ta carte d'identité, c'est le moment que choisit la personne du bureau de vote pour te rappeler tous tes prénoms, mais également le rappeler très fort à tout le bureau de vote. Moi, tu sais, je me suis rapproché de l'urne et il s'est mis à crier très fort Paul-Henri Pierre Mirabel. Je lui dis, mais calmez-vous, monsieur. Surtout que je les connais. C'est pas comme si j'allais découvrir quelque chose et dire, bah, merci de m'avoir éclairé, monsieur. J'avais oublié en plus, mais juste après avoir voté, il y a quelqu'un que tu connais pas aussi qui te dit à voter. C'est le seul endroit d'ailleurs où un inconnu commente ouvertement ce que tu fais. Par exemple, quand tu vas au restaurant, il y a aucun serveur qui regarde ton plat et qui te dit à bien manger. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup amusé par contre dimanche soir, c'est qu'il y a des candidats qui étaient annoncés à 3 ou 4% dans les sondages et qui, à l'annonce des résultats, ont eu l'air très déçus. Tu sais, tu vois vraiment dans certains regards qu'il y en a qui se disaient, bon, bah, à 24% près, on y était, Valérie. Il y en a même qui ont fait 1%, tu sais, et qui étaient très déçus. Alors, je rappelle, à titre informatif, une bière, c'est 4%. Donc, tu peux pas être déçu quand tu fais officiellement des scores d'apéritif. Hein, honnêtement, 1%, je pense que même Nathalie Arthaud, elle a voté pour quelqu'un d'autre. Mais c'est symptomatique du fait qu'il y a un léger problème d'implication pour la politique chez les jeunes. Je vous jure que c'est vrai. J'ai un ami qui m'a envoyé, Paul, est-ce qu'on peut voter avec sa carte vitale?
Mais non.
Bon, du coup, c'est plus trop mon ami, mais lui, il était capable d'aller voter avec une ordonnance. C'est d'ailleurs un des principes du suffrage universel, mais je trouve que ça fait beaucoup relativiser en termes d'ego de se dire que sa voix vaut autant que celle de n'importe qui. Par exemple, moi, j'ai un pote qui dit, dans la vie, il dit « si j'aurais », et sa voix, elle vaut autant que celle de Leïla. Et ils peuvent débattre pendant 2000 ans, si son seul argument à la fin, c'est « si j'aurais su, j'aurais voté Mbappé », bah ça fait un partout. Merci tout le monde de m'avoir écouté.
Merci Paul Mirabel.
Et Paul qui sera au Grand Rex les 14, 15, 16, 17 mai et en tournée bien sûr dans toute la France.
Mais oui, j'ai même vu que tu passais à Aurillac en septembre.
Oui, et c'est en mars, je sais pas, c'est pas en mai.
C'est en mars.
Bah, faut écrire
au
en mars.
Grand Rex. Oui, oui, faut mieux écrire surtout.
Faut écrire en gros pour Daniel.
Eddy de Préto.
Faut mettre toutes les lettres.
Et notre invité.
Quand
avec...
j'étais personne, plein de petits taffes d'automne, je rêvais d'idole. Me voyais déjà en haut.
On imagine censément sur la tournée
je ne serai jamais comme tel.
Des titres du nouvel album.
Car je n'ai rien fait comme tu m'as dit. Mais tu vois, je souris aussi.
La tournée s'appelle Freaks.
Freaks.
Est-ce qu'il y aura Caroline?
Oui.
J'ai trop de gars aimés. Je dois visiter toutes les villes. D'autres nuits à déshabiller. Puis désolé Caroline, j'ai des voiles à déplier.
On sait qu'il y aura la fronde.
Qu'on a trop compté nos morts. Dites-leur que nous n'avons maintenant plus peur.
Tout vivre, oui, obligé, tout vivre.
Obligé.
Regarde, je vais prendre mon temps. Car quand on fait comme tout le monde.
Et puis parmi les incontournables, les chansons du premier album.
Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi. Je ne prône pas mon chiffre, c'est la fête de trop.
Alors, les titres,
Lydie de Préto, jusqu'au fiasco, c'est là.
Vous les connaissez, vous savez maintenant qu'il n'y aura pas de reprise sur scène, mais les goûts musicaux d'Eddy de Préto, on va les découvrir. Et je rappelle que Pierre Audiger sera avec nous pour parler du Grand Prix de la Poésie et RATP, dont Eddy de Préto est le président du jury. En 2005, Eddy, vous écoutiez...
Sous son sol pleureur, solar pleure.
À se demander d'ailleurs si on peut être auteur de chansons aujourd'hui sans avoir écouté un MC Solar une fois dans sa vie, mais tellement c'est une référence en termes d'écriture.
Ouais, moi ça a été vraiment une grosse découverte et c'était le premier album que mon père m'avait acheté
Et c'est la seule chose musicalement qu'il m'a acheté. Donc du coup, c'était ouais. Ouais. Bon, après, j'avais forcé pour un CD de Laurie et il me l'avait acheté. Mais...
Il a assumé, il a dit Laurie, pas possible, même si
Laurie, pas possible, même si cela, ok.
On est en 2005, dit. La découverte, la rencontre de la musique de façon vraiment concrète, je crois que c'est vers 12 ans. Vous êtes inscrit dans une MJC, vous prenez des cours de théâtre.
Oui.
Et il y a aussi la possibilité de prendre des cours de chant, de la technique vocale.
Oui. Je faisais un peu le tour des activités périscolaires, ouais, parce que je me cherchais, et le théâtre a été quelque chose d'assez puissant pour moi, parce que c'est le seul endroit où je me sentais assez bien en moi et à ma place, et donc du coup j'ai voulu continuer parce que je savais que j'avais une voix. On me disait souvent tu chantes bien, tu chantes bien, donc du coup j'ai continué à aller prendre des cours de chant, et c'était à la MJC de Créteil que je me suis dit mais c'est mon métier en fait.
Mm-hmm. Mais pardon, quand vous dites que vous en aviez besoin, c'est-à-dire que c'était une période où vous étiez comment vis-à-vis de votre image, de votre voix, de votre, on est bien ou pas dans sa peau quand on est ado finalement.
Ouais,
c'est l'un des problèmes.
Je pense que j'étais pas très à l'aise, et surtout le sport c'était quelque chose assez difficile parce que les gens me calculaient pas trop dans le sport, j'étais un peu nul quoi. Enfin de fait, on passait une balle, j'arrivais pas à la récupérer correctement, et donc du coup.
Ouais, enfin le sport c'est pas que le foot, ça peut être la natation, ça peut être.
Non mais j'ai tout fait, j'ai fait
balles,
basket, tennis, oui, badminton, j'ai fait plein de trucs.
Oui mais je maintiens, il y a la natation.
Oui mais
on peut te passer la balle aussi à la natation.
Non mais il y a toujours ce truc de vitesse en fait, il y a toujours ce truc de meilleur que l'eau, de vitesse, des trucs.
Ah ça, sport et compétition, ça va souvent ensemble.
Et moi j'arrivais pas du tout, j'étais vachement.
Vous n'arriviez pas ou vous vouliez pas?
Je sais pas. Ça
c'est quand même un moment.
Et donc du coup au théâtre j'excellais. Voilà. Et j'arrivais et sans forcer.
Par sensibilité, parce que vous étiez d'abord lecteur aussi, parce que vous étiez vous dévoriez des films ou des pièces à la télé. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui vous amène à cet art?
Je découvre vraiment ça par curiosité. Ma mère me dit, il faut que tu ailles faire du théâtre, peut-être que ça va te plaire. Et ça a été un peu radical comme amour pour le théâtre et ensuite la musique.
Et le conservatoire, donc.
Et le conservatoire après.
Ah, tu voulais pas, d'accord, non. Je croyais que tu voulais.
Non, mais c'est bien, en fait.
Mais vous avez été acteur avant d'être chanteur?
J'ai fait quelques pubs et quelques films, ouais.
Et alors, les pubs, lesquelles? On n'est pas aux enfants de la télé.
Canal Sat.
Ouais, Canal Sat, exactement. C'était une pub où je me réveillais en Jules César. Dans une chambre.
C'est pas mal.
Normal, quoi.
Ah bah, j'y étais à cette soirée aussi. J'y étais.
Et donc, je rappelle que quand il était ado, Eddie De Pretto aimait aussi. Énorme succès. Et on parlait tout à l'heure de Jean-Jacques Goldman qui a écrit des chansons. Il a écrit des chansons pour Laurie.
Tant pis.
Il y avait Diams aussi, quand même.
Diams, beaucoup aussi.
Ouais.
C'est Diams, là ?
Oh non, en 2012, vous écoutiez Singing in the Rain. Singing in the rain.
Just singing in the rain. Alors.
Quoi ? Ah, c'est pas ça ?
Non, mais si, bien sûr. Mais 2012, je rentrais dans une école en Institut supérieur des arts de la scène qui, justement, me proposait H24 un peu Undo Stress de travailler la danse, le théâtre et le chant.
C'est Ricky Martin,
c'est
Ricky.
Non, c'est la super série.
Exactement. Et je pouvais faire ça, c'était une série. Et je pouvais faire ça de ma scolarité après le bac que j'ai jamais eu. Et bref, et je vais dans cette école et il y avait beaucoup de cours d'expression, de comédie musicale, un peu d'histoire de la comédie musicale, parce que c'était important pour le corps et pour la diction, le mot, comment tu chantes et tu danses en même temps. Et cette chanson a fait partie
du travail.
Et donc du coup, elle me rappelle énormément cette année-là.
Et à cette époque-là, 2012 et les années qui ont suivi, vous jouez dans pas mal de courts-métrages, films, je pense la Paulette de Jérôme Enrico notamment. Oui. Vous allez jouer aussi au Festival d'Avignon, mise en scène par Nelly Fantoni, un spectacle musical aussi. Donc vous multipliez comme ça les expériences. À ce moment-là de votre vie, vous vous dites voilà, ma destinée, c'est la scène sous toutes ses formes, quoi qu'il advienne, où déjà la musique commence à jouer une sorte, pas d'issue de secours, mais une possibilité en tout cas.
Moi, pour moi, c'était la scène dans tous les sens, quelle qu'elle soit, carrément. Le théâtre ou même la musique. Après, je développais mon répertoire avec l'écriture de mes chansons en parallèle, et aussi je me développais en théâtre et avec des agents et des gens autour de moi que je cherchais. Et en fait, la musique, c'est ce qui s'est débloqué en premier.
Et vos parents, comment est-ce qu'ils vivaient ces années-là?
Bah, très compliqué, très difficile. Il faudra que tu travailles, il faudra que tu cherches un vrai travail. Voilà. Enfin, le truc un
classique.
Peu classique.
Non, des parents qui s'inquiètent comme tous les parents.
Oui. Classiquement. Mais oui. Voilà.
Classiquement.
Non. Maintenant, ils sont très fiers.
Vous en êtes tous de vos recherches? Le travail.
Je passe un entretien tout à l'heure.
Bah, il part en tournée, il cherche du boulot partout en France. Chaque soir.
Okay, très bien.
En 2016, vous écoutiez Adèle. Qu'est-ce qui vous touche chez Adèle?
C'est une femme qui m'a toujours touché depuis son premier album. Je l'avais découvert dans une série qui s'appelait Skins quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit. J'avais 18 ans, je crois. Et je l'ai toujours suivie. Je l'avais vue à la Cigale au troisième rang. Donc on était très peu, elle était personne. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'elle est devenue, c'est énorme. Mais j'ai toujours eu une grande émotion viscérale à l'écoute de ses chansons et de sa voix. Et ça m'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, c'était important d'en parler.
Et en parlant de salles parisiennes qui comptent, on évoque la Cigale avec vous. Mais j'aimerais qu'on parle des Trois Baudets.
Je suis complètement normal.
En 2016, c'est la sortie de votre EP, Normal, qu'on trouve plus d'ailleurs en ce moment, cette EP, il est introuvable?
Non, il est introuvable.
Ouais. Ouais.
La maquette, la toute première maquette, c'était le temps d'avant. Non, mais j'ai eu plusieurs vies, comme vous le voyez, il y a eu des choses à droite et à gauche, et parfois on sort des choses qu'on ne veut plus que ça sorte.
D'accord, voilà. On ne veut plus que ça sorte.
On va l'arrêter alors, okay, d'accord.
Non, c'est pas celle-ci.
On est le 23 février 2016, vous donnez ce concert aux Trois Baudets. Pourquoi je reviens sur cette date-là? Parce que c'est important dans ce que ça va susciter chez les professionnels qui sont venus vous voir, en tout cas.
La salle était blindée, en plus.
La salle était blindée. C'est aux Trois Baudets, une petite salle vers Pigalle. Je faisais énormément de cafés, concerts avant ce Trois Baudets-là. Donc, la Bracada Bar, le Gambetta Club, tous les trucs un peu dans les caves, un peu miteux et tout. Où il y avait tous mes potes, 40, 50, 60. Et en fait, les Trois Baudets, c'était un peu le climax de cette era de cave. Et c'était un peu la plus grande cave. Je sortais un peu enfin des caves.
Et c'est une salle qui compte, les Trois Baudets.
Et c'est une salle qui compte. Et mon objectif, c'était de ramener des gens pros qui potentiellement pourraient me faire passer un palier.
Parce que vous n'étiez pas signé à ce moment-là.
Personne connaissait mon nom. Et donc, du coup, j'avais envie de rencontrer des gens qui potentiellement pouvaient, avec qui on pouvait passer un cap.
Alors, qui les contacte en disant venez écouter tel artiste?
Voilà, et c'est là où la magie s'opère, c'est que j'avais une pote qui vivait chez moi et qui était en master de communication et de management et qui me dit écoute, moi je suis chaude de travailler avec toi pour mon master, t'es mon maître de stage, on fait un truc ensemble.
L'arnaque.
Donc moi je t'amène des gens, moi ça développe mon master, ma thèse, et puis on rend le truc ensemble et on arrive à nos fins. Et donc nos deux intérêts communs liés ont fait que cette salle était remplie et il y avait des gens qui m'ont repéré entre guillemets ce soir-là et avec qui j'ai continué d'avancer d'ailleurs encore aujourd'hui.
Comment elle s'appelle?
La personne?
Oui.
La première personne? Oui. Anaïs Offan.
Non, mais juste avoir son nom, quoi.
Votre camarade.
Celle qui a fait le master. Ouais, c'est
Anaïs Offan.
Anaïs.
Et je la remercie encore ce matin à la radio. C'est énorme.
C'est-à-dire, c'est le moment où tout se passe.
Et là, un pseudo, on l'appelle Régine aussi. Dans le milieu de la nuit.
Et où tout se déclenche en 2017.
Dans ma pull, oh shit, le shit.
PNL.
Ouais. C'est un des groupes rap français que j'adore le plus avec Ninho. Voilà, par la poésie, par l'écriture. Si on parlait de différence de style tout à l'heure, pour moi, c'est ceux qui ressortent le plus.
Quelle est votre définition de la poésie?
S'exprimer sous toutes les formes, pour moi, c'est ça la poésie. C'est savoir s'exprimer sous toutes les formes, avec les mots et les sens qu'on veut y mettre et faire.
Oui, mais enfin, s'exprimer, on peut le faire en peinture, on peut le faire.
Oui, mais moi, je sais que m'exprimer.
En roman, la poésie, c'est quelque chose qui, c'est un exercice dans la manière d'écrire, soit en prose ou en vers. Mais est-ce que il y a une part de libération, ça libère quelque chose, la poésie?
Je sais, enfin, vous me parlez à moi,
Ouais.
Moi, c'est pas libérateur, non. C'est ça. Oui, ça dénoue des nœuds. Oui, ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas. J'ai pas la définition, mais apparemment la vôtre est très très bien acquise.
Non, vous êtes président du jury de la poésie, donc je me dis, qu'est-ce que vous attendez d'un poème?
Ah, bah, ce que j'attends, c'est d'être transporté, d'être envoyé ailleurs, quoi.
On parlait de PNL. Vous avez bossé en fait avec des producteurs avec qui ils avaient collaboré en plus sur Kid.
Sur mon premier album.
Ouais.
Mais moi, carrément.
Je joue avec les filles.
Justement, quand on sort une chanson, quand on sort un EP, des titres, on a en tête l'envie bien sûr de plaire au public, mais on a aussi l'envie d'être diffusé. Est-ce que ça influe sur la formation du morceau? Est-ce qu'on a besoin, je ne sais pas, de boucler, d'avoir des refrains, d'être radio éditable,
formaté donc.
Voilà, est-ce qu'on prépare justement des
édits
spécifiques pour la radio, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Faut quand même préciser que les artistes, vous gagnez votre vie en jouant sur scène, moins en vendant des disques aujourd'hui, mais
pour remplir les scènes
et en étant diffusé à la radio aussi.
De fait et de volonté, je répondrais non, mais forcément, après avoir fait un album qui était pas du tout du coup pensé de cette manière-là, et qu'on voit l'ouverture et le rapport avec des nouvelles personnes, le lien enfin que ça ramène, les gens qui viennent dans les salles continuellement, forcément que ça induit, je pense inconsciemment, malheureusement, sur la façon de construire une chanson et d'essayer de refaire quelque chose qui potentiellement est venu chercher du monde, a touché des gens, et du coup, quand t'es devant ta feuille, je pense qu'inconsciemment tu te dis, alors que il faudrait se dire le contraire et faire le contraire, mais je pense qu'il y a un truc.
Il n'y a pas de recette.
Voilà.
Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette.
Il n'y a pas une bonne recette, la preuve.
Et puis, il y a des chansons qui peuvent toucher avec.
Mais on y pense et on essaie justement de faire le contraire pour pas que ça paraisse forcé, mais forcément, c'est dans le calcul, inconsciemment, et on essaie de s'en défaire. Moi, j'en ai essayé de m'en défaire au maximum, en tout cas.
On va continuer de parler de Freaks, la tournée d'Eddie de Préto jusqu'à 12h30. Pierre Audigier nous a rejoint. Bonjour. Merci de venir à ce micro. Vous êtes responsable comme à la RATP. Expliquez-nous en quoi consiste le Grand Prix. Il existe depuis combien de temps d'ailleurs ce Grand Prix de la poésie?
Alors bonjour Nagui, bonjour à tous. C'est la 8e édition du Grand Prix Poésie RATP. Et la poésie a une place particulière dans le cœur de la RATP, puisque depuis près de 30 ans, la RATP propose des textes poétiques à ses voyageurs pour agrémenter leur trajet. Et donc on a commencé par afficher des auteurs du genre, et puis a germé cette idée de proposer un grand concours d'écriture auquel pourraient participer nos voyageurs et le grand public. Et donc, on les invite depuis 8 ans maintenant à partager avec nous leurs poèmes.
Il y en a déjà 6500, ça plus de 6500 qui sont arrivés, c'est ça?
On est à presque 8000 poèmes à l'heure où je vous parle. Donc, il y a une très forte participation poétique.
Qu'est-ce qui a gagné? Parce que c'est un concours, donc il y a des voyages, c'est ça?
Alors, en fait, le principal gain, je dirais, c'est pour les lauréats, donc les 11 lauréats, c'est de voir leurs textes affichés dans le métro parisien, puisque leurs textes pourraient être vus et lus par des millions de voyageurs chaque semaine. Et puis, effectivement, pour les 3 grands prix, le Grand Prix Enfant, le Grand Prix...
Il y a les 100 finalistes qui seront publiés chez Gallimard, c'est ça?
Tout à fait, en fait. Les 100 finalistes seront publiés dans un recueil en partenariat avec Gallimard.
Et les 3 grands vainqueurs gagneront... Il y a des chèques cadeaux, je crois, pour les plus jeunes.
Tout à fait. Donc, pour les enfants, 400 euros de chèque cadeau. Wow. Pour les jeunes, une tablette tactile. Et pour les adultes, un week-end pour 2 dans une capitale européenne.
Le rôle d'Eddie de Préto en président du jury, d'abord, il y a le jury est constitué de combien de personnes et qui...
On part en week-end avec Eddie de Préto si on gagne.
À négocier avec lui.
À Créteil-Soleil.
Bien sûr.
Donc le jury est composé effectivement d'Eddie que je remercie vraiment chaleureusement de nous accompagner sur cette édition 2022.
Bon, en même temps, vous allez vous faire un pass Navigo, donc il ne peut pas refuser. Hein.
Et il est, le jury est aussi composé de personnalités du monde des arts et des lettres. Journaliste littéraire.
Pense à bien Eddy, hein. Il y a toi et il y a aussi des gens, il y a des artistes aussi, ouais. Hein. Il n'y a pas que Eddy de Pretto.
Mais il aura une voix prépondérante. Le président a toujours une voix prépondérante. Et donc, ce jury choisira 10 lauréats, dont 3 grands prix. Hein. Et puis cette année, petite nouveauté, le public pourra voter également et choisir un grand prix des voyageurs. On leur soumettra aussi une sélection de textes et ils pourront choisir leurs favoris.
C'est jusqu'au 19 avril, c'est ça, pour déposer les textes?
Exactement.
Sur le site de la RATP?
RATP.fr/grand-prix-poésie. Jusqu'au 19 avril, il vous reste une semaine pour participer. D'ailleurs, Nagui, on attend votre poème.
Bah, il faut 4 lignes. Moi, j'en suis qu'à la deuxième déjà. C'est ça, minimum 4 lignes, maximum 14.
Exactement. Minimum 4 lignes, puisqu'on a des formats courts dans les rames, et puis 14 lignes pour les formats un peu plus longs qui sont affichés sur les quais des stations.
Merci Pierre d'être venu. Tout de suite, voici le héros du jour, Daniel Morin.
Chers amis, ça faisait longtemps et je sais que ça vous manquait, mais alléluia! Aujourd'hui, mon héros du jour a failli être un produit laitier.
Non,
si.
Mais non.
À cheval entre la Champagne et la Bourgogne, il ravit les papilles des grands comme des petits. C'est bien sûr le chat-ours. Le chat-ours est un fromage, et non pas, comme le croyait notre réalisatrice Alessia, un croisement improbable et sûrement douloureux entre un petit félin et un imposant plantigrade. Tendre et crémeux, mais avec ce qu'il faut de caractère pour ne pas tomber dans la catégorie fromage de merde qui ne sert à rien, le chat-ours est un fromage de génie. Qui oserait dire « je n'aime pas le chat-ours » ? Personne. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est délicieux. Et en plus d'être délicieux, il est en pleine bourre. Après une année 2021 remarquable, il veut aller plus loin. Et c'est avec panache que le fromage s'est offert des affiches 4x3 dans le métro pour promouvoir son élan de conquête. Merci la RATP. Pour la qualité et l'audace, le chat-ours aurait bien mérité d'être mon héros du jour, mais non. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un homme est en train d'entamer ce qu'on peut appeler le marathon de la galère. Cet homme, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, surnommé Gabi Lambrouille. Oui, depuis hier, son patron, Emmanuel Macron, est en campagne pour le second tour de l'élection suprême, et il est parti sur les chapeaux de roue au niveau des déclarations. La retraite à 65 ans? Je suis pas bloqué là-dessus. Un référendum? Pourquoi pas. Et ça, c'est au bout d'un jour de campagne. Maintenant, c'est à Gabriel Attal de rentrer en scène pour ne rien confirmer tout en rassurant. Heureusement, il sait faire. Monsieur Attal, la retraite à 65 ans, c'est définitivement abandonné? Alors, écoutez, le président réfléchit. Vous le savez, il est très à l'écoute des Français, de leurs préoccupations. Le projet de réforme des retraites n'est pas gravé dans le marbre, mais le président est prêt à en parler. Avec les Français? Avec ses collaborateurs qui, oui, sont Français. Qu'en est-il du référendum sur le sujet? C'est envisageable. À quelle échéance? Alors, l'ensemble du gouvernement, en soutien du président, travaille sur le sujet. Il travaille, c'est bien, mais ce sera pour quand, en gros? Vous le savez, le président ne pratique pas, ne pratiquera jamais la langue de bois. Vous le savez, il est partisan d'une totale transparence, et ce, quels que soient les sujets. Aussi bien en ce qui concerne sa politique générale, qu'en ce qui concerne les réformes à venir, à courte échéance. C'est pourquoi alors cette consultation des Français, concrètement et en toute transparence? Vous voulez une réponse? Je vais vous la donner. Le dossier est vaste. Il demande qu'on s'y attarde pour prendre les bonnes décisions. Mais les équipes sont au travail, et ce, sans relâche. Du coup, sur un temps long, on peut dire qu'à moyen ou court terme, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, sauf si, bien sûr, à moins que. Alors là, on repensera le calendrier. Et évidemment, vous me connaissez, je vous le ferai savoir au plus vite. Merci à tous. Exercice compliqué, celui de porter la parole. C'est donc pour ça que Gabriel Attal, sans conteste, est mon héros du jour.
Merci Daniel Morin. Tanguy Pastureau,
oui.
Tu nous as rejoint, de quoi vas-tu parler?
Je veux parler de Christina Cordula qui dimanche a voté en France pour la première fois. Elle était très contente et je trouve ça frais et émouvant.
Notre invité est Eddy de Pretto et il est là jusqu'à midi et demi sur Inter pour nous parler de Freaks, de son nouvel album, de sa tournée et également du prix de la poésie à la RATP. Bonjour, avec Leïla Kadoboudadi, Morgan Gagnon, Paul Mirabel, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Eddy de Pretto.
Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille.
Eddy de Pretto, cette chanson Kid qui a été un déclic comme la fête de trop. Ça vous a ouvert un large public, comme on dit, grand public.
Jusqu'au fiasco, c'est la fête de trop.
Vous dites que les paroles n'ont pas forcément été interprétées dans un premier temps comme vous vouliez initialement le faire. Kid n'était pas une manière de vous outer, c'était...
C'est drôle, il y a deux jours, il y a encore une anecdote que j'ai reçue là d'une fille, je ne sais plus d'où. Bref, elle vient me voir, elle était en vacances au Maroc. Elle était dans un taxi avec deux garçons qu'elle rencontre là-bas. Et il y a Eddie Depreto qui, enfin, je passe à la radio.
Mais vous avez pété un câble, Eddie, ou pas?
C'est l'artiste.
Mais attends, c'est l'artiste. Je vais te calmer, Alain Delon, là.
Je parle d'elle. C'est son récit. Et donc son récit.
Ça se trouve, on n'a pas le vrai.
Non, c'est vrai. C'est vrai.
Son récit dit tu passes à la radio, donc voilà. Qui passe à la radio. Et à ce moment-là, les deux garçons disent ah non, on adore. On l'entend grave ici, et parce que ça dit exactement ce qu'il faut faire. Tu dois être viril, tu dois vraiment...
C'est ce qu'on subit.
Non,
au premier degré. Ah d'accord, ils comprennent la chanson comme...
Ils l'avaient compris.
Tu dois être un homme.
Véritablement, c'est... Voilà, d'accord. Exactement, tu dois être un homme. Okay. Et donc,
Tu dois être un homme. Pour être un homme, il faut être viril.
Voilà, exactement. Voilà, et donc, elle leur explique que c'était de la dénonciation, en tout cas.
C'est l'inverse.
C'était l'inverse.
Du coup, vous aimez plus du tout, quoi.
Alors, je sais pas après comment ça s'est fini. Mais en tout cas, elle m'a raconté cette histoire-là. Et donc, j'ai plein d'histoires comme ça où les gens...
Ça va dans un sens comme dans l'autre. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir des adolescents qui disent au contraire, merci, c'est exactement ce que je ressens et ça me soulage. Ouais. Et à l'inverse, c'était, ah ben non, j'avais pas du tout compris ça. Enfin, ça a été ma surprise.
Ou sinon, je reçois des insultes en mode, de qui tu parles? Moi, si j'ai pas envie d'être viril, t'arrêtes de me dire que je suis viril, tu vois. Ils le prennent aussi au premier degré, mais en mode.
Et homophobe aussi, avec des agressions.
J'ai eu moins d'homophobie.
Tant mieux.
Ouais, tant mieux.
Tant mieux. L'image du déprimé, du triste, du. J'ai bien le sourire qui passe. Voilà. Vous l'avez entendu aussi 25 000 fois aussi.
Ouais.
Parce que. Mais ça vous touche.
Mais je suis quelqu'un de déprimé et triste. Donc.
Oui, mais ça veut pas dire.
Pas que. Je suis aussi ça.
Bah oui, mais vous savez aussi vous amuser et faire des.
C'est pour ça que je viens à la radio faire des blagues.
C'est gentil. Et à l'inverse, on peut très bien vous écouter sans forcément être déprimé. C'est pas le but n'est pas de déprimer les gens.
Ah non, voilà. Bien sûr.
Numéro 1 sur les dépressifs.
Non, mais c'est vrai.
Il y a des dépressifs dans mes salles, je crois, j'en suis sûr même. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui adorent la vie et qui sont très heureux quotidiennement.
Parfaitement, parfaitement. Je ne serai jamais comme t'es, car j'ai rien fait comme tu m'as dit. Mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, parfaitement. Je ne serai jamais assez.
On parle un tout petit peu de Freaks qui est une chanson et qui est également le titre que vous avez donné à cette tournée sur la... En retournant encore une fois ce qui était une insulte et en récupérant ça en disant ok, on assume.
C'est à tous les bâtards, ouais.
Voilà, on assume la différence et à tous les bâtards est un titre. La pochette est un dessin qui vous a été envoyé par un fan, c'est ça?
Je recevais depuis le premier album énormément de gens qui me dessinaient sur Insta ou sur les autres réseaux et je me demandais comment se raconter sur un deuxième album pour éviter justement trop la brillance et l'efficacité formatée je vais arriver en mode BG, glow up, de ouf. Et en fait, je voulais prendre à contre-pied.
BG, on traduit beau gosse. Hein.
Ouais, pardon. Ouais. Excusez-moi, il est midi. Et je voulais du coup prendre à contre-pied ce côté-là et venir me représenter d'une autre manière. Et je trouvais que ces fan art qui étaient représentés de n'importe quelle manière représentait bien la non-brillance de ce que j'avais envie de montrer dans cet album.
Surtout de passer par le prisme et le regard d'un fan.
Le regard d'un autre qui a énormément mis d'amour en faisant ce truc. Et je trouvais que c'était une belle réponse justement à toutes les attentes d'un deuxième album.
On va continuer de parler avec Eddie Depreto jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Monsieur Tanguy Passion.
Hier, je suis tombé sur une interview de Christina Cordula, tout le monde voit.
Ouais.
C'est une dame qui, sur M6, crie. Alors, elle est super, elle fait du tuning sur des gens. C'est-à-dire qu'elle prend une secrétaire morne, sapée en noir, Nathalie, qu'elle lui dit, ma chérie, ça va pas, le soleil, il est où le soleil? Et l'autre n'a même pas le temps de répondre, dans ton cul, pour déconner, que Cordula l'a repeinte en rose à paillettes, en petit crop top. Et là, la fille dit, avec ce look, je ne suis plus Nathalie, non, je suis Jennifer, de Venice Beach, LA. Et hier, Christina Cordula a expliqué que dimanche, elle a voté pour la première fois en France, parce qu'elle est originaire du Brésil, comme l'épilation en triangle, et Neymar. Neymar. Hein, Neymar, c'est celui qui est moins soigné. Alors, elle est arrivée à 10h dans le bureau de vote. À 11h, tout était refait. Les rideaux des isoloirs étaient en lin, couleur pastel. Elle a refait les assesseurs, mais aussi les assez-frères, enfin parité. Et elle était, mais stressée, comme toujours quand on fait quelque chose pour la première fois. La première fois que Nicolas Sarkozy a été reçu par un juge, il était pas bien. Hein. Il suait comme un pingouin au Sénégal. Alors que maintenant, il les connaît tous par leur prénom. Ça va, René, les enfants, on se boit un café bientôt, on se voit plus. 2 mois que j'ai pas été convoqué par la justice. Je vais te dire, il y a plus rien qui marche dans ce pays. Bon, après Cordula, ça va faire comme Jane Birkin. Toute sa vie, elle veut faire semblant de rien capter à la langue pour rester exotique. Elle a déclaré au moment de voter, j'avais froid dans le ventre. Voilà, il y a que dans la Reine des Neiges qui a cette phrase au moment où Elsa couche avec Olaf, le bonhomme de neige, parce qu'il a un très long sexe. Alors méfiance. Je suis pas certain d'avoir vu la bonne version parce que j'ai acheté le DVD à Pigalle. Olaf a 3 carottes. Bon, enfin. Donc si je vous parle de Christina Cordula, c'est parce que cette fierté à aller voter pour nous qui sommes si blasés, bah c'est rafraîchissant. De toute façon, Christina Cordula est mon idole parce qu'elle a osé faire ce que moi je n'ai jamais osé dire à des gens en doudoune sans manche. Enfin, c'est pas possible, mon chéri, tu ressembles à un sac de course. Alors sinon, au niveau de la politique en tant que telle, ils sont deux, Marine et Manu, vous avez suivi, il ne doit en rester qu'un. C'est comme dans Squid Game, mais en moins convivial. Macron hier était à Denain, dans le Nord, territoire plutôt branché Le Pen. C'est comme si Lana Del Rey se produisait au Hellfest face à Scorpion. Une dame l'a apostrophé. Pourquoi avez-vous dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés? Il a répondu, je l'ai dit de manière affectueuse. Hein, la dame a dit, bah moi quand je dis je t'emmerde à quelqu'un, c'est pas affectueux. Donc là, Macron était coincé. Je pense qu'il essayait de faire passer ça pour un syndrome de la Tourette. Qu'ensuite, il lui a crié, va te faire voir, vieille coche, ta mère la chienne femelle. Puis il a ajouté, voyez, je vous aime beaucoup. Alors tout le reste de la balade s'est déroulé comme ça, ça va les connards. Bon. Alors Macron, il faut savoir que quasi tout le monde le soutient. Le journal Le Monde s'est prononcé pour lui, ainsi que Gosbo Magazine et l'ensemble des auteurs du rayonnement développement personnel de la FNAC spécialisé dans l'estime de soi. Joe Biden, papy Yankee, l'homme aux 120 ans, est aussi pour Macron, il l'a dit. Maintenant qu'il a réussi à retenir son nom, il n'a pas envie d'avoir à en apprendre un nouveau. Parce que longtemps, il a cru que Micron, c'était pareil. Enfin, quand on lui disait Micron on the phone, il se mettait à hurler, vous êtes fous, si cette saloperie passe par le fil du téléphone, je vais crever. Donc Macron entendait saloperie, il se disait, tiens, Joe Biden est très affectueux. Marine Le Pen, de son côté, paraît perdue, elle se retrouve quasi seule. Son unique soutien, c'est Robert Ménard. Ça ressemble à la Coupe de France quand Mémisan se retrouve face au PSG. Hier, elle était dans Lyon, dans un village qui s'appelle Soucy. Tous les psys de France y ont décelé un SOS. Allez, 2-3 infos pour finir. Sachez que le débat d'entre-deux-tours aura lieu mercredi 20 avril. Marine Le Pen, qui à 5 ans avait montré la même éloquence que Laetitia Hallyday sur un exposé à propos de Spinoza, a prévu de tout mettre en pause sur 2 jours pour se concentrer uniquement là-dessus, comme nous quand on n'a pas couché depuis 14 ans et qu'enfin on a décroché un rendez-vous sur Tinder. Sinon, on n'en sait plus sur le premier tour, parce qu'il y a eu des tas de statistiques. Les vieux ont plutôt voté Macron, les jeunes Mélenchon, des vieux et un jeune, des jeunes et un vieux. C'est le premier scrutin à ressembler à un nom de catégorie sur YouPorn. Une enquête IFOP Lacroix, encore plus spécifique, dit que 69% des musulmans ont voté Mélenchon. Voilà. Les catholiques plutôt Le Pen, les protestants Macron. Un musulman a voté Éric Zemmour. Il a été admis aux urgences psychiatriques avec un monsieur de Neuilly, c'est prononcé pour Philippe Poutou. Alors un petit point biodiversité, on n'a pas sauvé le rhinocéros blanc ni le dodo, mais il n'est pas trop tard pour sauver Valérie Pécresse. Elle lance un appel aux dons, elle a claqué 5 millions, elle s'est prise pour Elon Musk, mais à moins de 5%, eh ben on touche seulement 800 000 euros de subvention. C'est-à-dire que Nathalie Arthaud aussi va toucher 800 000 euros. Il faut savoir qu'avec ça, elle peut vivre pendant 240 ans. Hein. Quand on dépasse les 5%, par contre, on reçoit 7 millions. 7 millions, c'est Jean-Pierre Foucault qui vient vous remettre le chèque. Enfin, j'ai regardé commune par commune. Alors sachez que le plus gros score national d'Éric Zemmour, c'est à Saint-Tropez. Voilà, il y avait bébé, maintenant il y a Z. En fait, ils sont en train de reconstituer l'alphabet, c'est qu'on l'a. Si, plus gros score national. Macron, c'est à Rurutu et à Nuku'iwa en Polynésie française. Voilà. Alors, il a des fans, mais ils sont très loin. En fait, c'est comme Mireille Mathieu qui est applaudie, mais au Japon. Enfin, une info pour Anne Hidalgo, qui nous écoute sans doute en sirotant une infusion au Lexomil. La commune, madame, où vous avez eu le plus gros score, 14% quand même, c'est la Grand Combe dans le Gard. Alors, j'ai regardé, il y a un train à Gare de Lyon à 14h10, avec les bouchons depuis l'hôtel de ville partait hier. Arrivé à l'Est, 18h10, ensuite 21 minutes de voiture et vous êtes dans votre vrai chez-vous, la Grand Combe dans le Gard. Filez, madame.
Merci. Bonne passion.
Le 7 mai à Rognac, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
Mais on est d'accord, quand tu dis le plus gros score, ça veut pas dire arrivé en tête. Ça veut dire que parmi tous ces scores, si. C'est là où il a fait, c'est là où il a fait son meilleur score.
Ah, son meilleur score, d'accord.
Oui, je crois pas qu'il soit,
Non, je crois pas. Vérifier.
Je crois pas. Non, c'est vérifié. Edith de Poitou.
Sur la région inconnue pour ça.
Notre invité. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas lui qui est arrivé
c'est
en tête.
C'est pas grave,
je te le dis.
Quand j'étais personne, plein de petits taf d'automne, je rêvais d'idole. Me voyais déjà
en tournée
Edith Depréteau, le 21 avril, ça sera à Bourges, le 26 avril à Bruxelles.
Je ne serai jamais comme t'es.
Et il faut dire qu'Edith Depréteau sur scène, c'est une vraie expérience aussi, parce que c'est, on n'a pas parlé de la dimension scénique du jeu, de l'espace, et à chaque fois, c'est, enfin, en tout cas moi quand j'ai pu vous voir, c'était un très très beau concert.
27 Merci. Avril à Lille, 28 avril à Rennes, le 2 mai à Bordeaux, le 3 mai à Lyon, le 4 mai à Rouen.
J'ai rien vu en un clin d'œil, ils ont décroché mes rêves.
Le 9 mai à Toulouse, le 10 mai à Nantes, le 11 mai à Paris, au Zénith, le 17 juin à Montréal et le 18 Québec.
J'ai trop de cas à aimer, je dois visiter toutes les villes, d'autres nuits à déshabiller.
Alors justement, tiens, pour vous, de visiter les villes et de, quand vous arrivez dans une ville pour un concert, quel est le premier réflexe? C'est d'arriver dans la salle, prendre la température, se sentir la structure, voir la structure se monter, ça loge. Vous avez une superstition?
Prendre une douche?
Non, je fais mon sport.
C'est vrai?
Ouais.
Vous êtes dans le tourbus avec...
On est dans le tourbus avec toute l'équipe.
Faut préciser ce qu'est un tourbus, parce que c'est un vrai lieu de vie, c'est comme un hôtel.
Voilà, c'est un hôtel roulant, ouais. Avec deux étages, il y a les chambres là-haut, et en bas il y a la cuisine, le salon et la toilette. Les toilettes.
Et salle à manger.
Et là,
ouais, c'est là où vous mangez, où vous traînez, vous chillez, et au-dessus, il y a les couchettes.
Exactement. Et on roule la nuit, donc du coup, on finit une date et on part en tourbus, et on arrive le lendemain matin à une autre ville, dans un parking.
Vous avez des... c'est le parking d'un Zénith.
Oui, exactement. Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous avez des aménagements, entre guillemets, dans votre loge, des superstitions, des photos, des décos, des senteurs? Parce que chaque artiste, comme ça, a son théâtre, j'allais dire, dans sa loge.
Les senteurs, ça sous-tend quand même que c'est pas forcément l'endroit le
non.
plus...
Non, mais tu peux avoir des bougies.
Moi, c'est des huiles essentielles, c'est, ouais. Ça, ouais. C'est pour la voix, surtout. Donc, c'est l'eucalyptus ou de l'amande poivrée.
Ouais.
Très bien.
Ensuite, combien de gouttes?
3 ou 4. Et ensuite, j'ai une potion, une potion magique.
Titri aussi, c'est bien.
Mais j'ai une potion magique, c'est une sorte de grog avec... du thym, du gingembre, et voilà quoi, un mélange pour ma voix.
Pour la voix.
Ouais. Parce que vu qu'on tourne avec des dates qui s'enchaînent pas mal, 3 ou 4 dates, il faut que ça puisse continuer de chanter. Exactement.
En tournée donc, la tournée Freaks, Edith Depréteau, l'un des événements culturels du oui. moment. Que se passe-t-il d'autre, Leïla?
On va parler du prochain projet de Thomas Langman. Mm-hmm. De quoi s'agit-il d'après vous, Thomas Langman?
Oui.
Un film.
C'est la reprise de la tournée Star 80, non?
Non, mais ça reste... c'est lié à la musique.
Une comédie musicale.
Une comédie musicale, absolument, mais sur qui?
Starmania à la suite.
Elvis.
Non.
Capulco.
Non.
Phil Barnet.
Ce sera à Las musicale. Vegas.
Ah.
Ce sera à Las Vegas.
C'est
cette
un
comédie
français,
musicale.
C'est un français à Las Vegas.
Sinatra.
Non, une artiste française.
Dion. Zaz.
Dion.
Alors Zaz va chanter, mais
Piaf.
Absolument.
Ah voilà.
Voilà, une comédie musicale sur Piaf avec Zaz. Pour Las Vegas.
Wow.
Un spectacle à 50 millions de dollars, environ 45 millions d'euros. Donc, il propose de refaire toute la vie de Piaf avec Cerdan, Aznavour, Montand,
ouais,
Brel,
ouais,
les décors de Paris même. Et l'idée, c'est que les gens qui vont assister au spectacle auront dans leur chambre d'hôtel une tenue. Et ils vivront une soirée comme au Carnegie Hall. En gros, l'idée, là où Piaf avait triomphé en 56 et 57.
Ah, de se replonger dans...
Complètement,
ils sont
faire
acteurs.
Vivre une expérience. Et refaire vivre cette vie là et être en temps une
J'adore.
Expérience
Super
immersive
idée.
Pour ouais. le spectateur. Y a-t-il des mythes auxquels il ne faut pas s'attaquer d'après vous, Edith
Depréteau?
C'est
Préto ce que tu penses pour Piaf?
Non, je sais pas. Je pose la question. Est-ce qu'il y a des artistes qu'il faut laisser de côté, qu'il ne faut pas essayer de faire revivre? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un artiste en particulier dont vous aimeriez voir la vie sur scène, dans un biopic? Vous pensez à qui?
Aznavour?
Non. Brel? Ouais, Brel.
La vie de Brel.
Ouais, la vie de Brel.
Ouais, en musique, en chanson.
Ouais, carrément.
Et vous, si vous deviez chanter la vie de quelqu'un, un artiste, ce serait qui?
Aznavour? Non.
C'est souvent en lien aussi avec le physique, non?
Sans
qui
doute.
Font ça,
ouais,
qui font
ouais.
je...
un parallèle.
On
oui.
a parlé de Ron Weasley souvent, de Harry Potter, donc peut-être qu'on pourrait
c'est
refaire.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai qu'il y a un truc d'Harry Potter avec sa baguette magique.
Oui, Ron plutôt.
Ouais, voilà.
Ouais.
Ouais, d'accord. Okay.
Ah oui, par Harry Potter. Oui, non, bah, j'ai Harry Potter. Je parlais de la, la saga, ouais,
la franchise. Je peux vous connaître à Harry Potter. Tiens.
Un autre événement
autre
culturel.
Question. Oui, quelle personnalité au nom mondialement connu devient scénariste pour Amazon Prime?
C'est son boulot?
Pas du tout.
Ah, ah, Kylian Mbappé.
Non, mais en son nom de famille est très connu.
Obama.
Oui, mais qui?
La fille. La fille.
Maya Obama. Maya Obama.
On se croirait dans un jeu de cette famille. Dans la famille Obama, je demande la fille. Pioche.
En effet, c'est elle qui va s'y coller, la fille de l'ancien président des États-Unis. Elle écrit son prochain projet. Bien sûr, elle va être aidée. Est-ce que vous avez un conseil série à... Qu'est-ce que vous dévorez en ce moment?
J'ai commencé en thérapie.
Ouais.
Et une magnifique série.
La saison 2.
Ouais, la saison 2 est drôle aussi. C'est une magnifique série de Fanny Herrero qui a fait 10% et que j'ai regardé, que j'ai beaucoup aimé.
Le stand-up, donc.
Le stand-up.
La scène.
Le stand-up. Lorsque l'on interprète des chansons, lorsqu'on écrit des chansons qui sont une part de soi, on livre donc peut-être des douleurs, des infortunes. Tout à l'heure, vous parliez justement de la manière dont certains peuvent se reconnaître en matière de déprime. Pas uniquement en matière de déprime, mais en tout cas, d'avoir besoin comme ça d'être soulagé en disant « je ne suis pas le seul à avoir un mal-être ou un problème dans le regard des autres ». Est-ce que de rechanter sur scène remue le couteau dans une plaie lorsqu'on chante une chanson qui aurait pu être une blessure? Est-ce qu'on réouvre cette blessure en chantant?
Non, c'est juste jouissif sur la scène, pour moi, on est vraiment sur le partage puissant de gens qui ont intégré ces musiques-là et qui sont juste en train de kiffer de les partager avec une salle et avec le chanteur en question. Donc non, pour moi, c'est juste du partage, une certaine ferveur, une certaine folie, un truc qui n'est pas palpable, quoi, qu'on peut pas décortiquer. C'est juste on est en train de kiffer, quoi.
Alors, il y a aussi beaucoup de paroles qui sont et de textes qui sont des reflets de notre société et qui sont pas forcément, vous n'êtes pas forcément le nombril de la chanson, mais ça, en tout cas, c'est de votre point de vue sur le monde. Comme on est entre deux tours, est-ce que votre point de vue sur la société s'exprime aussi, ce que fait un artiste, c'est politique, c'est une prise de position.
Bien sûr.
Est-ce que on vous a demandé, on vous a sollicité pour vous impliquer en politique et
l'impliquer?
Prendre Twitter, position.
Non, mais sur Twitter, il y a pas mal de gens là qui demandez à vos chanteurs ou à vos icônes pour qui ils votent. Je ne l'ai pas fait parce que j'estime que ça doit rester dans
l'isoloir.
Non, mais je pense que dans mes chansons, on comprend moi, enfin mais ce que je défends, vers où je vais, vers qui je vais, mes valeurs exactement. Donc de les reposter, de surligner quelque chose comme ça parce que c'est le moment, me paraît un peu récupérateur.
Et dans le plaisir que vous aviez à jouer sur scène ou à être acteur quand vous aviez 12-14 ans, est-ce que vous voulez le vivre ce plaisir? Est-ce que l'idée de monter sur scène au théâtre, mais pas pour chanter, pour jouer cette fois-ci, c'est quelque chose qui est possible ou dans les projets?
C'est des projets qui sont en cours, ouais, carrément.
Et vous aimeriez jouer quel genre de pièce?
Ah bah on verra tout un tas de pièces.
Il y a pas un auteur qui vous attirait plus qu'un autre?
J'aime beaucoup le travail de Thomas Joly ou de Joël Pommerat. C'est des gens qui m'ont beaucoup plu dans leur mise en scène et dans leur écriture.
Vous prenez pas les deux plus pourris, ça c'est sûr.
Tant qu'à faire.
Tant qu'à faire, on est bien.
Voilà. Est-ce qu'il y a un acteur ou une actrice avec qui vous aimeriez partager la scène dans les rêves? Prenons quelqu'un d'actuel ou de disparu, peu importe, mais vous aimeriez, dans un monde idéal, partager le dialogue avec qui?
J'aime bien Laure Calamy.
Ouais, super, actrice.
Voilà.
Très bien. En tournée, je le rappelle...
La réponse est bonne.
Il n'y avait pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais c'est toujours bien de savoir qui vous attire, qui est solaire comme ça pour vous, même si vous ne la connaissez pas personnellement.
Pas
c'est,
du tout.
Voilà, c'est ce qu'elle joue, ouais, et sa manière de jouer qui vous touche. Le 21 avril, je le rappelle, au Printemps de Bourges, le 20...
Ou Isabelle Huppert, bien sûr, excusez-moi.
Je vous en prie. Le 27 avril à Lille, le 28 avril à Rennes, mais Bordeaux, Lyon, Petit-Quevilly. Le 11 mai, ça sera au Zénith à Paris. Le 26 juin, également à Paris, mais ça sera cette fois-ci au festival Solidays. Et toujours pour le Grand Prix de la Poésie RATP, vous avez jusqu'au 19 avril pour participer sur le site RATP et déposer vos poésies. Peut-être que le président du jury sera touché, ému par votre plume. Daniel Morin, des excuses à présenter.
Absolument. Alors déjà, désolé pour l'orthophoniste de Nagui.
Oh,
oui,
salaud.
Vous l'avez entendu, docteur, votre travail sur l'enfant du Nil ne marche pas si bien que ça.
RATP.
Même sur quatre lettres, ça peut déraper.
Poésie à la RATP.
Il essayait de dire RATP.
C'est raté.
Biquet, hein. Dommage, crâle pire. Il faudra prononcer le son Lutz. Alex Lutz. C'est pas si facile, hein. Ça va être tendu. Désolé pour le PSG section foot, hand, basket ou volley qui avait prévu de recruter Eddy de Préto au prochain mercato. A priori, ça va être compliqué, sauf si vous enlevez les ballons. Bien sûr. Et même sans ballon, ça va être tendu. Désolé pour Tanguy dans les soirées caves, sont bien connus dans le métier et qui avait prévu d'inviter Eddy de Préto à la prochaine. Il a été clair ce matin, notre invité, c'est fini cette période. Maintenant, il est dans un mode rez-de-chaussée, voire mezzanine. Si vous lui reparlez de cave, ça va être tendu. Désolé enfin pour tous ceux qui se demandaient si Nagui était très vieux. Élément de réponse. Ouais, il va falloir tenir jusqu'en juin. Et là, ça
ah
va
bon
être tendu.
T'es sûr?
Ça dépend de toi.
Merci Eddy. Merci mille
merci
fois Eddy de Préto d'avoir
merci
été notre invité.
Je veux pas presser mon monde. Regarde, je vais prendre mon temps. Car quand on fait comme tout le monde, on devient bête et méchant. Moi, je voudrais jamais paraître bête. Faire des trucs pour combler le blanc. J'espère dire des choses qui restent et accepter de perdre du temps. Il faut
bon, et on se revoit en taratata, non? Vous revenez?
Ah bah bien sûr, je suis habitué.
Quoi. Ouais, vous avez l'adresse maintenant, hein, c'est bon. Eddy de Préto en tournée, merci mille fois Eddy. Demain, en effet, Alex Lutz sera notre invité.
Ah,
les carnets de campagne, je m'entraîne. Les carnets de campagne, c'est maintenant avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour les amis.
Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur?
Beaucoup de choses.
Le polyglotte.
Non, mais Philippe, ouais, Philippe, t'as pas le droit.
Mais si, il a le droit.
Mais t'as pas le droit.
Mais si.
Pourquoi non?
Hasta la vista.
Et si je vous parlais d'un, tiens, ça va vous intéresser, d'un webzine musical.
Très bien.
Qui est lancé dans le Val d'Oise avec des reportages photos, dans les concerts, des interviews, des chroniques. Et c'est vraiment bien fait. Et ça s'appelle Mélo Live.
Très bien. C'est noté. À tout de suite.